Les trois coups sonnaient. C'est un signal bien connu dans les villages de France et qui, après les diverses sonneries de la matinée, annonce le commencement immédiat de la messe. Julien entra dans l'église neuve de Verrières. Toutes les fenêtres hautes de l'édifice étaient voilées avec des rideaux cramoisis. Julien se trouva à quelques pas, derrière le banc de Madame de Rênal. Il lui sembla qu'elle priait avec ferveur. La vue de cette femme, qu'il avait tant aimé, fit trembler le bras de Julien d'une telle façon qu'il ne put d'abord exécuter son dessein. « Je ne le puis, » se disait-il à lui-même. « Physiquement, je ne le puis. » En ce moment, le jeune clerc qui servait la messe sonna pour l'élévation. Madame de Rênal baissa la tête qui, un instant, se trouva presque entièrement cachée par les plis de son châle. Julien ne la reconnaissait plus aussi bien. Il tira sur elle un coup de pistolet et la manqua. Il tira un second coup, elle tomba. Julien resta immobile. Il ne voyait plus. Quand il revint un peu à lui, il aperçut tous les fidèles qui s'enfuyaient de l'église. Le prêtre avait quitté l'autel. Julien se mit à suivre d'un pas assez lent les quelques femmes qui s'en allaient en criant. Une femme, qui voulait fuir plus vite que les autres, le poussa rudement. Il tomba. Ses pieds s'étaient embarrassés dans une chaise renversée par la foule. En se relevant, il se sentit le cou serré. C'était un gendarme, en grande tenue, qui l'arrêtait. Machinalement, Julien voulut avoir recours à ses petits pistolets, mais un second gendarme s'emparait de ses bras. Il fut conduit à la prison. On entra dans une chambre, on lui mit les fers aux mains, on le laissa seul. La porte se ferma sur lui à double tour. Tout cela fut exécuté très vite, et il y fut insensible. « Ma foi, tout est fini, » dit-il tout haut, en revenant à lui. Madame de Rênal n'était pas blessée mortellement. Quand, après un pansement long et douloureux, le chirurgien lui dit « Je réponds de votre vie comme de la mienne », elle fut profondément affligée. Depuis longtemps, elle désirait sincèrement la mort. La lettre qui lui avait été imposée par son confesseur actuel et qu'elle avait écrite à M. de la Mole avait donné le dernier coup à cet être affaibli par un malheur trop constant. Ce malheur était l'absence de Julien. Elle l'appelait, elle, le remords. Le directeur, jeune ecclésiastique vertueux et fervent, nouvellement arrivé de Dijon, ne s'y trompait pas. Mourir ainsi, mais non de ma main, ce n'est point un péché, pensait Madame de Rênal. Dieu me pardonnera peut-être de me réjouir de ma mort. Elle n'osait ajouter, et mourir de la main de Julien, c'est le comble des félicités. Le geôlier apprit à Julien que Madame de Rênal était sauvée. À mesure que le récit de cet homme prouvait à Julien que la blessure de Madame de Rênal n'était pas mortelle, il se sentait gagné par les larmes. « Sortez !» dit-il brusquement. Le geôlier obéit. À peine la porte fut-elle fermée. « Grand Dieu, elle n'est pas morte !» s'écria Julien. Il tomba à genoux, pleurant à chaudes larmes. Seulement alors, Julien commença à se repentir du crime commis. Par une coïncidence qui lui évita le désespoir, en cet instant seulement, venait de cesser l'état d'irritation physique et de demi-folie où il était plongé depuis son départ de Paris pour Verrières. Ses larmes avaient une source généreuse. Il n'avait aucun doute sur la condamnation qui l'attendait. « Ainsi, elle vivra, » se disait-il. « Elle vivra pour me pardonner et pour m'aimer. » Il remerciait le ciel de ne l'avoir pas blessé à mort. « Chose étonnante, » se disait-il, « je croyais que par sa lettre à M. de la Mole, elle avait détruit à jamais mon bonheur à venir. » Et, moins de 15 jours après la date de cette lettre, je ne songe plus à tout ce qui m'occupait alors. 2 ou 3 000 livres de rente pour vivre tranquille dans un pays de montagne, comme Vergy. J'étais heureux alors. Je ne connaissais pas mon bonheur. »